Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. Notre générique qui nous poursuit depuis trois saisons. Il s'agit bien entendu d'un extrait du Roméo Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Je suis avec Tito. Bonjour Tito.
Bonjour.
Et je salue Étienne qui est à la technique et qui va nous accompagner pendant toute l'émission. Bonjour Étienne. On va commencer tout de suite avec un spectacle que tu as vu hier, Tito, qui s'appelle donc Ce soir, j'attends Madeleine, c'est au Carré Rondelet. Et vous l'avez deviné d'après le titre, c'est un spectacle sur Jacques Brel. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Guillaume Nocture, bonjour.
Bonjour.
Et Christelle Galli.
Bonjour.
Qui est un peu gênée parce qu'elle a l'accordéon avec elle. Alors ce soir, j'attends Madeleine, donc un spectacle sur Jacques Brel. Jacques Brel nous a quittés en 1978, si je ne me trompe pas. Il fait partie des grands anciens. Quand je parle des grands anciens, je pense à trois particulièrement. Il y a Jacques Brel, Ferré et puis Brassens.
Voilà, exactement.
Alors qu'est-ce qui vous a poussé à monter ce spectacle sur Jacques Brel?
Alors, donc déjà, c'est un grand monstre de la chanson française. Et donc, chacune de ces chansons raconte une histoire. Et donc, je me suis dit, si on montait tout un spectacle avec ces chansons, il y avait moyen de faire une vraie histoire. Et donc, je suis parti de la chanson Madeleine. Et donc, le spectacle s'est intitulé « Ce soir, j'attends Madeleine ». Et donc, on s'est servi de toutes ces chansons. Enfin, pas toutes, évidemment. Mais je me suis amusé à regrouper toutes ces chansons pour faire un seul spectacle avec un fil conducteur qui lie toutes ces chansons-là.
Alors, quel est le fil conducteur du spectacle?
Eh bien, c'est un garçon de café qui travaille à l'Alcazar et qui a un rendez-vous galant avec Madeleine, voilà, sa bien-aimée, qu'il a croisée quelques jours plus tôt. Et du coup, il attend Madeleine dans ce café. Donc, est-ce qu'elle va venir? C'est là tout problème du spectacle.
Tito, je me tourne vers toi parce que tu as vu le spectacle hier. Oui. Et tu es revenu tout à fait enthousiaste.
Alors d'abord, l'idée est très bonne parce que Brel lui-même, il a commencé comme ça, dans les petits cabarets, dans les petits cafés. Et donc, on retrouve pas mal, je crois, on peut s'imaginer l'ambiance des premières prestations de Brel avant qu'il monte sur les grandes scènes, de l'Olympia, etc. Ça c'est déjà un bon point de départ. Je pense aussi, il aimait beaucoup l'accordéon, donc ça je crois que c'est pas par hasard.
Mais... chauffe Marcel, chauffe.
Chauffe Christelle.
Voilà. Et non mais tout ça, là déjà on est bien dans son monde à lui. Même si après ce qu'on connaît plus c'est ses grands concerts etc et ses prestations à la télévision, sa comédie musicale avec Don Quichotte
avec Dario Moreno,
que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, Dario Moreno, que des fois les gens rigolent du fait que j'aime Dario Moreno.
Je le sens toujours,
il a chanté avec Brel. Ah bon? Ah ben oui, ben donc c'est qu'il n'était pas complètement nul. Après, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que vous n'essayez pas, c'est pas une imitation de Brel. Et ça, c'est une très bonne idée, parce que vous chantez très bien. Et vous interprétez très bien ces chansons. Donc, ça va très bien comme ça. Voilà, j'ai fait un peu le tour des éloges que j'avais à faire.
Merci.
Moi, je voulais revenir sur le choix des chansons, parce que c'est un monument, Brel. Et comment est-ce qu'on peut choisir Tout est merveilleux.
Ah oui, tout est bien. Après, voilà, donc on avait un contexte. On était donc dans ce café de l'Alcazar. Et donc, après, j'ai vraiment tout lu, toutes les chansons. Et donc, je me suis dit, ah, celle-là, elle pourrait aller à ce moment-là. Après, il y avait des monuments qu'on ne pouvait pas passer à côté. Il y avait... donc, on a ces gens-là. Il y a les remparts de Varsovie. Et il y en a des moins connus. On a aussi le tango, Knock le Zoo de tango, qui est sur son dernier album, qu'il n'a jamais effectué en live, qu'on connaît
comme
que sur
disque. Comme les remparts de Varsovie, d'ailleurs, fait partie de son dernier album.
Oui, exactement. Voilà. Et donc, c'est des chansons qu'on n'a jamais vues à la télé, ni en concert par lui. Et du coup, voilà, c'était aussi un objectif de mettre aussi ces chansons-là qu'on n'avait pas vues aussi en concert par Jacques Brel.
Mais je rappelle que Jacques Brel, il a quitté la scène en 1974, si je ne me trompe pas.
Je crois plutôt.
Plutôt, peut-être.
Parce qu'il est parti aux Marquises très, très, très vite. Ouais, je crois que le dernier Olympia, ça doit être 64, 68, j'ai plus de... en mémoire. Mais
oui, c'est vrai. La dernière grande prestation, ça doit être en 68.
Oui, je crois que
c'est sa rupture complète avec le milieu du showbiz, je crois que c'est 74.
Ah,
avec son départ
au Marquise. Oui.
Et alors, on va parler un petit peu maintenant de votre parcours à vous.
Ah, bah, d'accord.
Vous vous présentiez.
Donc, moi, je suis musicien à la base. Donc, j'ai été à la Sorbonne en musicologie. Et j'ai toujours fait du théâtre en parallèle. Et puis, donc, de la chanson. J'ai donc un groupe aussi de musique où je fais des soirées dansantes, beaucoup en Normandie. Donc, je viens de Normandie. Et donc, je suis monté à Paris à l'âge de 18 ans. Et puis là, j'ai décidé de monter ma compagnie pour monter mes propres spectacles. Donc, j'ai commencé par les spectacles pour les enfants. Et puis, l'amour de Brel m'a fait écrire un spectacle sur Jacques Brel. Donc, ce soir, j'attends Madeleine. Et puis, on a fait donc le Festival d'Avignon avec ce spectacle. 2 années de suite, en 2010 et 2011. Et puis, voilà, là, on joue actuellement à l'Essaillon à Paris aussi, tous les mercredis jusqu'à fin avril. Et voilà, donc je mêle toujours un petit peu le chant, la musique et le théâtre, voilà, qui font partie un peu de moi, quoi.
C'est la première fois que vous venez à Montpellier ?
Oui,
première fois. Alors, vos impressions sur Montpellier ?
Il y a du soleil, ça fait plaisir. et puis, on a fait une première soirée hier qui était très, très bien. Les gens ont l'air très chaleureux. Ça fait plaisir. Et puis, on va voir encore les prochains jours. Et puis, on va visiter un petit peu cet après-midi, avant le spectacle.
Ça vaut le coup, Montpellier, à visiter.
Voilà.
Ça vaut le coup. Et donc, c'est un spectacle qui se passe au Carré Rondelet. Ça fait partie des petites salles de Montpellier. Il y a à peu près 50-60 places,
si je ne me trompe pas.
Et nous, c'est une des salles que l'on défend, Vendredi Théâtre, parce qu'on ne va pas seulement dans les grandes machineries de théâtre, mais on va aussi visiter les petits théâtres plus intimistes qui sont tout à fait essentiels à la création théâtrale, puisque ça permet un rapport plus proche avec le public, plus intimiste, et ça permet de faire aussi des tentatives qui sont plus difficiles, des fois avec des grandes structures.
Exact.
Alors hier, c'était la première.
Oui, à Montpellier.
Donc Tito, tu y étais. Comment ça s'est passé, cette première ?
Très bien. On s'est adapté au lieu, comme on s'adapte à peu près quand on joue dans tous les endroits. Et puis, ça s'est très bien passé. On a été contents. Il n'y avait pas...
On va peut-être parler maintenant du reste de l'équipe. Nous sommes donc avec Christelle Galli, qui est à l'accordéon.
Oui, voilà. Je ne pars jamais sans lui. Je me place toujours avec lui.
Comment ça s'est passé, la rencontre avec Guillaume ?
Un peu rapidement, parce qu'il m'a appelé 2 semaines avant un concert assez important, en me disant « j'ai besoin d'une accordéoniste, est-ce que tu es dispo ?» On ne se connaissait pas avant, et ça a fait l'affaire. Donc voilà, j'étais très contente. Là, ça fait maintenant plus de 2 ans.
2 ans,
ouais. Ouais, 2 ans que je le connais, et qu'on tourne ce spectacle. Donc,
Et il y a aussi un pianiste.
Oui, c'est Jimmy Tillier.
On n'a pas pu rentrer le piano dans le studio.
C'est ça.
Mais
Salut Jimmy.
si on écoutait un petit peu ce que ça donne.
Allez, on va vous faire donc
un petit live.
Ce soir, j'attends Madeleine. Madeleine, on va vous faire le premier couplet. Ce soir, j'attends Madeleine. J'y ai apporté du lilas. J'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir, j'attends Madeleine. On prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël. C'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi. Comme dit son cousin Joël. Mais ce soir, j'attends Madeleine. On ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça. Elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là.
Bravo, voilà. Bravo, merci. C'est pas facile comme exercice, c'est tout à fait différent de faire...
Oui, c'est devant le micro, il n'y a personne, c'est marrant.
Tito, tu avais quelque chose à rajouter sur le spectacle ?
Moi, comme j'ai quitté Paris avec Florent il y a 10 ans déjà, ça fait 10 ans de cette année.
10 ans qu'on est Montpellier.
Voilà, je voulais savoir, c'est une petite question personnelle, est-ce qu'on continue d'avoir des petits lieux où on peut aller écouter ce genre de choses ou est-ce que tout s'est boboifié comme mon quartier du Montparnasse qui est devenu une espèce de machine à bobo ? Assez insupportable.
Non, je pense qu'il y a plein de petits lieux qu'on ne connaît pas Et en effet, parce qu'il y a moins de promotion, il y a moins de, on connaît moins les petits lieux. Mais à Paris, il y a vraiment plein de petits lieux qu'on ne soupçonne pas. Et il y a toujours ce théâtre de proximité qu'on retrouve. Et c'est vrai que les gens, voilà, mais il y a du public quand même. Parce que les gens cherchent aussi cette proximité, comme vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un besoin de proximité. Et là, c'est vrai que nous, dans le spectacle, en plus, on a envie que les gens soient avec nous dans ce café de l'Alcazar. Et du coup, on a un côté un petit peu interactif avec les gens. Et voilà, cette proximité facilite le spectacle par rapport voilà, où ils sont devant nous, avec nous, quoi.
Ben, remarquez que moi, j'ai toujours trouvé qu'à Paris, côté théâtre et côté scène, c'était surtout dans les petits théâtres que ça se passait, parce que les grandes machines, après, c'est aller voir Arditi cabotiner sur un fédo. Et ça, franchement, moi, ça m'ennuie profondément. Et pour voir du bon théâtre, il faut toujours aller à Saint-Denis ou alors... à la limite à la colline, ce qui de Montparnasse est à peu près aussi loin que d'aller de Montpellier à Lyon. parce que les gens ne se rendent pas compte combien c'est loin en métro, toutes ces choses-là. Et je suis très très content donc, que ça continue. Et je trouve que si les gens de Montpellier veulent voir ce que c'est qu'un bon café-théâtre de Paris, sans prétention et avec de la qualité, et vraiment bien chanté et bien parisien après tout, oui. Hein, soyons parisiens. Voilà, moi j'invite vraiment à aller voir ce spectacle. Même si la salle hier était comble, il faut quand même réserver, hein, parce que à mon avis, il y aura pas beaucoup de place.
C'est un spectacle qui tourne depuis combien de temps ?
3 ans maintenant, oui.
3 ans. Et les réactions du public ?
Ben, ça va, on a assez de très bonnes critiques.
C'est voilà. Plein tous les soirs ?
Ça dépend des fois, oui. Il y a des moments plus que d'autres, ça dépend des périodes aussi. Mais c'est un spectacle, ouais, on est content de le jouer. Les gens, je pense, prennent plaisir à écouter. Voilà.
Et on a eu la chance d'avoir un spectacle, Isabelle Brel, qui est venue voir et qui nous a fait de belles louanges. Et ça fait chaud au cœur, quoi, de voir qu'elle adhère à ce qu'on propose avec les chansons de son père. Et donc, on est vraiment très fiers de ça.
On s'en fait une petite deuxième ?
Une petite
deuxième. Je suis un petit peu resté sur ma faim. Donc
d'accord. Donc on va vous parler maintenant de la patronne du café de l'Alcazar qui s'appelle Adrienne de Montalant. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grandes places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Voilà,
bravo.
Donc vestiaire aussi.
Bravo, merci. On va rappeler que c'est au Carré Rond de l'Aix, ça se passe. Hein. C'est tous les soirs, c'est donc jusqu'à dimanche.
Oui.
Tous les soirs, c'est à 20h30 et dimanche, c'est à
18h.
Voilà, mais allez-y, puisque le Carré Rondelet, c'est une salle qu'il faut défendre, comme la plupart des petites salles de Montpellier.
Mais il faut réserver, parce que là, je crois qu'il va y avoir du monde. Il y a des choses.
Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau.
Ben merci.
Et on va se quitter. Tiens, une chanson qui n'est pas dans le spectacle. Hein, je me suis renseigné quand même un tout petit peu avant.
Ouais.
On va passer la chanson des vieux amants de Jacques Brel, puisqu'on parle beaucoup de mariage pour tous ces temps-ci et qu'il y a quand même encore des vieux amants qui n'ont pas encore le droit de se marier. Voilà, Jacques Brel, tout de suite.
Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Moi je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps tourment. Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore.
Jacques Brel sur Divergence FM, la chanson des vieux amants. Vous êtes bien sur Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de théâtre tous les vendredis sur Divergence FM, le 93.9. Mes invités et ES du deuxième plateau sont arrivés. Nous allons parler de plusieurs spectacles, d'une carte blanche qui se passe à La Vista, une carte blanche au groupement d'artistes Rhizome. Alors je vais essayer de ne pas écorcher les noms. Je suis avec Sandrine Barciette.
Oui.
Je l'ai bien dit.
Oui.
Avec Carina Pantaléo.
Bonjour.
Et avec Sandrine Lemétayer.
Bonjour.
Voilà, je n'ai écorché les noms de personne, c'est formidable. Alors, ce collectif, ce groupement d'artistes Rhizome, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que c'est que ce groupement d'artistes?
Alors, comme son nom l'indique, c'est un groupement d'artistes. On est plusieurs artistes, donc il y a des danseuses, des comédiennes, des clowns, des musiciennes qui se sont regroupées, ça a commencé l'histoire il y a quelques années, en 2007-2008, Et actuellement, il y a 8 personnes. Et dans chacune, on a des activités extérieures, on a nos compagnies, etc. Mais le point de départ est venu d'une réflexion qu'il y avait un constat d'une très grande difficulté à diffuser nos spectacles. Mmh. Et de fil en aiguille et de réflexion en réflexion a eu lieu ce groupement où on s'est dit essayons de nous diffuser ensemble. Mais c'était pas tant une bouée de sauvetage que aussi le désir de diffuser des spectacles qui peut-être étaient différents et qui c'était pas si facile de les diffuser parce que il y a un format particulier qui n'est pas 1h15 ou 1h30 ou 2h moins le quart, qui peut être des formes courtes, qui peut être ceci, qui peut être cela. Et en même temps, nos différences faisaient que nous, il y avait un certain émerveillement à s'éclairer les unes les autres.
Ah oui.
En fait, et de coupler des soirées avec tiens du clown, tiens de la musique, tiens du cabaret, tiens de la danse, et de faire que le public des danseuses n'allait pas être le même que ceux des musiciennes, mais que là pour le coup ça pouvait se mélanger, nous on pouvait se rencontrer aussi puisqu'on était un peu hors coquille de nos compagnies respectives, donc hors nos réseaux ou nos affinités naturelle ou ancestrale. Et voilà. Voilà. Et de même aussi pour aller à la rencontre de publics un peu néo-vent, c'est-à-dire sans une annonce d'un théâtre, d'une institution qui allait border nos spectacles de précaution et qu'on pouvait essayer d'y aller directement, en fait. Il y avait ce goût du risque et ce désir de cette sensation de risquer une forme non établie qui peut être considérée comme un gros bide ou un gros underground et d'avoir la capacité, un peu timoré, mais de se prendre des tomates directement.
C'est déjà arrivé ?
Non, non, pas encore.
Ah, moi, j'ai vu le spectacle hier. Alors, c'est tous les soirs différents à la Vista. Donc, tous les soirs, il y a une proposition différente. Hier, c'était plutôt axé sur la danse. Voilà. Et il y a eu un autre spectacle, c'était mercredi, c'était plutôt sur le théâtre. Ce soir, c'est plutôt un concert, c'est plutôt...
Il y a une première partie, c'est un concert chant et conte. En fait, c'est surtout, on va dire que c'est plutôt un spectacle musical basé sur des musiques berbères de Kabylie et judéo-espagnoles. Avec des contes qui sont tissés entre la réalité et la fiction et l'imaginaire. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie est clownesque. C'est une performance clownesque totale. Pas du tout musicale, je crois. Et voilà.
Et la suite, donc, demain, ce sera quoi ?
Samedi. Alors, samedi à 18h, ce sera un film Solitude. C'est en autoproduction. C'est un comédien réalisateur-monteur qui a mis plusieurs années à faire son film. Il a, dans un premier temps de sa jeunesse, essayé de trouver des moyens pour payer la pellicule à l'époque, puisqu'il n'y avait pas tant de vidéos. Et de fil en aiguille, il a réussi avec des moyens du bord, en exploitant les familles de ses copains, en faisant un montage complètement anarchiste, oui. Et pour le coup, alors j'ose pas dire forcément underground, mais progressivement, il a filmé partie par partie et ça fait un moyen métrage, on va dire, sur une histoire. Ça frise l'histoire de son histoire du théâtre, son histoire perso, et c'est comme une espèce de poème autobiographique et cinématographique. Et dans la deuxième partie, c'est un spectacle de théâtre qui est écrit à partir des petits poèmes en prose de Baudelaire, enfin d'une douzaine, pas de tous, 12 poèmes. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc alors c'est David Stanley, c'est un Anglais. C'est vrai que moi j'ai vu le spectacle, on va dire que c'est le grand étonnement produit et la grande réjouissance. J'avais une approche de Baudelaire extrêmement scolaire et je me suis rendu compte parce que lui c'était un Français, c'était un poète français qui connaissait très mal avant d'arriver en France, et je me suis rendu compte que Baudelaire était plutôt politiquement incorrect à notre époque, que j'avais pas perçu ça et que voilà, c'est tout d'un coup, c'est une grande bouffée d'air frais avec un auteur du siècle dernier, enfin d'il y a deux siècles maintenant, et finalement que je lisais peu et qui est fait, je peux pas parler de clown du tout, hein, on n'est pas dans le clown, mais je crois que le fait que l'humour anglais et la culture anglaise avec ces textes-là français, de notre culture française, fait une espèce de, c'est sur une ligne extrêmement délicate et fragile de, on sait pas si on doit rire, se choquer, voilà, c'est un spectacle dans cette couleur-là.
Alors ce spectacle, ça sera donc samedi, hein, et dimanche, qu'est-ce qui se passe dimanche? Ça commence à 17h30 dimanche.
Alors ça commence avec Sonia Ankelings, qui est une ancienne danseuse de chez Bagway, qui depuis s'intéresse aux danses traditionnelles. Et elle vous propose gratuitement un atelier de valse. Et ça se poursuit avec Leonardo Montecchia.
Ce n'est pas tout à fait un atelier de valse, c'est le groupe amateur qui se produit autour de la valse. Mais vous êtes invité à venir voir ce travail gratuitement.
Et après, on parle de tango, si je ne me trompe
voilà,
pas.
Voilà, avec la compagnie La Mentira de Leonardo Montecchia et moi-même. Donc c'est un tango contemporain. Les puristes, ne venez pas parce que vous allez être
étonnés. Il ne faut pas être puriste de toute façon.
Comme nous sommes danseurs contemporains et bon, Léo est argentin, il a appris là-bas, moi aussi un peu et surtout ici, on a apporté notre contemporanéité, voilà, au contemporain. Pardon, au tango. Voilà. Et ensuite, ça se poursuit avec Il s'en allait tout plat.
Oui, alors c'est un...
Parlez bien devant le micro.
C'est un groupe qui est un peu... composite, qui travaillent autour du théâtre, de la musique et de la danse et qui ont pris comme point de départ un travail de recherche autour de la bourrée. Voilà, et ils ont fait un spectacle tout à fait étonnant à partir de ce matériau patrimonial. On peut dire ça ?
On peut le dire.
Voilà.
Alors vous, votre implication dans ce collectif, ce groupement d'artistes, comment vous êtes entré dans ce groupement d'artistes? Comment ça s'est passé? L'une ou l'autre?
Les affinités électives.
Ah, c'est joli ça.
Et puis un petit peu de hasard, il faut bien le dire.
S'il y en a, oui.
Voilà. Je peux raconter l'histoire peut-être.
Oui, oui.
En fait, Karina jouait dans une pièce qui s'appelait Kishing et qui avait été jouée sur le premier événement Rhizome à la Chapelle en 2010. Et puis voilà, l'histoire s'est poursuivie en cheminant et voilà, elle a intégré le groupement de son propre chef.
Avec Eve Jouret, qui est danseuse également, nous avons un spectacle que nous avons joué hier. Il y avait aussi le duo avec Eve et Laurence Dubard, clown. Et nous deux n'avons pas de compagnie. Pour l'instant, nous le revendiquons, on verra bien la suite. Ce qui nous permet justement, ce qu'expliquait tout à l'heure Sandrine, ce qui nous permet de nous produire dans le cadre de Rhizome. D'ailleurs, on vous parlera du changement de nom.
Ah oui, ça va changer de nom?
Oui.
Ah, il y a un blanc. Peut-être.
Si, si.
C'est en cours.
C'est en cours.
Voilà. Et voilà, c'est comme c'est... Déjà, ne pas être une compagnie, c'est atypique. On ne peut pas être programmé de façon... c'est des détours. Voilà. Des détours se font. Et puis, la durée qui est à peu près de 30 minutes occasionne aussi un certain... désarroi parfois.
Je vais revenir un petit peu sur le spectacle que j'ai vu hier. C'est donc un spectacle qui était en deux parties. Il y avait une première partie qui était clown et danse, qui s'appelait Le Hublot. Il y a une deuxième partie qui était avec de la vidéo. On pourrait parler un petit peu de cette vidéo?
Alors, tout ça est parti d'un hors-lit, parce que Leonardo Montecchia s'occupe aussi des hors-lits, qui sont des performances. C'est un concept qu'il a adapté, ce sont des performances qui se passent dans des appartements et de toutes sortes. On propose une soirée entière de plusieurs, chaque forme à 20 minutes, et le public déambule d'un endroit à l'autre. Donc C'est à chaque fois très différent. C'est un public très curieux. Et donc, j'avais fait à l'origine un solo de danse qui s'appelait aussi Fleurs de province, où mon but était de faire un film. Mais nous étions au mois de mai, pluvieux à Montpellier. Et vu le temps qui pressait aussi, c'est devenu le montage photo que vous avez vu hier. À l'origine, j'étais seule et je me suis baladée dans la ville. Ça pourrait être une pub de Montpellier, mais déguisée en fleurs. Hein. Donc j'avais un très bon rapport avec le public puisque je n'étais pas déguisée de manière, comment dit-on
Carnavalesque.
Oui.
Ostentatoire.
Oui, voilà. J'attirais plutôt la sympathie. Mmh. J'ai ainsi pu m'approcher de CRS, de militaires, qu'on ne voit pas hein, sur le montage, il a fait une sélection. Donc c'est Renaud qui a fait un gros travail de montage.
Renaud
Dupré.
Renaud Dupré.
Qui s'est occupé de la vidéo. Donc à partir de ces photos, on a fait un premier montage. J'ai fait le spectacle en appartement. Et ensuite... j'ai eu envie, en connaissant Ève, à l'époque je connaissais moins, de lui proposer de partager cette aventure, ce à quoi elle a répondu positivement. Et comme moi j'étais plutôt dans la ville, avec du monde, son parti pris c'était d'être dans les lieux underground et seule. Donc on la voit dans les lieux vraiment désaffectés de Montpellier aussi, avec des objets usagés, enfin... Donc il y a ce paradoxe-là, et le génie, ça a été celui de Renaud, de faire ce montage. Elle est déguisée en papillon, parce que nous sommes des fleurs, n'est-ce pas ? Des femmes naïves qui nous jouons finalement de la condition féminine à travers laquelle, à cette époque-là, parce qu'on a un peu la référence des années des femmes fleurs, 30, 40, 50, où les femmes étaient l'objet des hommes. Voilà. Sans vouloir être féministe.
Mais on peut.
Derrière ce petit, ces petites fleurs, ces papillons, on lance qu'est-ce que le message qui font bien.
Il y a un petit côté kitsch hein, quand même dans le décor.
Tout à fait.
Est-ce que c'est kitsch ou est-ce que c'est camp ? C'est toujours la question que je me pose.
À vous de dire.
Est-ce que c'est tellement kitsch que ça redevient camp ?
À vous de dire.
Ça, en tout cas, c'est très drôle. Il y a des choses dans le décor et, qui sont à mourir de rire.
Bien, merci.
On va parler un peu du public du groupement d'artistes Rhizome. Je suppose que tous les soirs, c'est un public différent ou est-ce qu'il y a des gens que vous retrouvez d'un spectacle à l'autre ?
Les deux.
Les deux, mon colonel.
Les deux, mon colonel. Et c'est un peu le but. C'est-à-dire qu'il y a du public différent parce que chaque artiste, ou que ce soit la personne ou le projet, attire un certain type de public. Mais le fait de se mélanger attire le public d'un autre. Donc ça se mélange. Et puis après, il y en a du coup que cette forme-là attire ou intrigue et du coup qui se reporte sur les autres soirées par intérêt. En fait, de se dire, ah ben, tiens, je suis venue voir un tel, mais finalement, d'abord, je vois qu'elle joue à un autre moment, et puis sinon, j'ai envie de voir la soirée telle qu'elle m'a plu, donc je vais voir une autre soirée, voir ce que ça donne, voilà.
C'est vrai que quand on voit un spectacle, moi, j'ai choisi au hasard le spectacle que j'ai vu hier, mais ça donne envie de voir ce qui va se passer le lendemain et qu'est-ce qui va se passer l'autre jour, puis après, on se dit, ah, mais ça, c'est intéressant, peut-être que je devrais y aller aussi. Je pense qu'il y a un peu de ça qui se passe chez le public.
Ouais, parce que le premier jour, en plus, on avait invité la compagnie de la Bulle Bleue, qui est un ESAT à la Vérune, là, dans les ateliers Kennedy. Mais parce qu'on trouvait qu'ils faisaient un travail formidable et vraiment professionnel, donc, et puis qui continue de rester parqué quelque part. Du coup, on les avait invités, et le premier soir, c'était eux plus Nicolas Marquet qui fait l'installation qu'on voit à l'entrée, avec les boîtes,
qu'on
peut regarder.
Parce qu'il y a une exposition dans l'entrée.
Ouais.
Vous pouvez nous donner un petit mot sur cette expo ? Qui veut ?
Nicolas Marquet est donc plasticien et il a inventé un concept très original où, à travers des œillets, comme ce qu'on trouve dans les portes, à travers ça, on découvre un paysage. Alors on regarde et puis tout ça est mis en scène par soit des boîtes d'aliments, soit des peintures. Et tout le jeu est de regarder ce qui se passe à l'intérieur.
Regarder par le Judas.
Exactement.
Et on découvre des choses.
Voilà.
Et en fait, comment ça s'est passé? Comment la Vista en est venue à vous proposer une carte blanche au groupement d'artistes? Cette rencontre avec la Vista?
On est allé les voir.
On est bien reçus à la Vista?
Très bien reçus.
Oui.
Très bien reçus. Et puis, pour la grande oblique qu'on avait envie de faire cette année, c'est vraiment le lieu idéal. Parce qu'on a...
Ce qu'il y a en plus de la grande oblique là sur le programme et ce qui est pour le public, enfin dans le cadre spectaculaire, c'est 5 soirées là, mais parallèlement il y a un Rhizome a envie de et propose un travail parallèle à tout ça avec des ateliers, des rencontres, des labos au sein d'un avec un public particulier, enfin avec un public de quartier. Et la Vista c'est situé dans un quartier super populaire avec un brassage de population très varié et qui nous plaît en fait de travailler là-dessus.
Puis un public de fidèles aussi à la Vista.
On voit
à tous les spectacles pratiquement, il y a des gens qui sont là, qui vont peut-être uniquement au théâtre à la Vista, mais qui sont là pratiquement à tous les spectacles.
Oui, voilà. Et aussi donc de curieux, de personnes qui sont pas des fois j'entends parler même des amis, des très proches qui disent bon ben ce théâtre là, j'ai pris mon abonnement, je vais que là, au moins je sais que c'est bien. Et c'est pas forcément que c'est pas bien, c'est juste que nous, on a envie de faire une oblique là-dessus. On part de côté en se disant, et la Vista, on trouve, même si, voilà, il y a un risque du spectateur qui sait pas trop ce qu'il va voir. Et ça nous correspond vachement bien.
Moi, j'aime bien prendre des risques en tant que spectateur, me dire, tiens, je vais voir un truc ce soir. Qu'est-ce que je vais voir? On verra bien. Et puis, on fait souvent d'heureuses découvertes.
Voilà, on fait aussi des fois, on se trompe, ou des fois, on n'est pas d'accord, ou des fois, le spectacle n'est pas réussi, ou des fois, il est plus compliqué d'abord. Mais voilà, c'est ça qui nous passionne, en fait, qui nous réjouit, on va dire. Et la Vista, voilà, c'était un lieu où on a proposé le projet parce qu'on pensait que ça pouvait le faire. Et. Visiblement, ça le fait.
Ça le fait, oui, puisque hier, c'était pratiquement plein. Hein, la salle était pratiquement pleine. Et donc, le public est au rendez-vous. On va parler un tout petit peu maintenant de l'avenir du groupement d'artistes. Après cette semaine, cette carte blanche offerte par le théâtre La Vista. Si on veut vous voir après, où est-ce qu'on peut vous voir? Comment est-ce qu'on peut vous voir des spectacles de vous, voir vous rencontrer?
Alors, pour le moment, on ne sait pas encore, mais on est en train d'y travailler, c'est-à-dire à trouver d'autres fenêtres prochainement ou sur des villes voisines ou sur la région. Voilà, mais on vous tiendra au courant dès qu'on aura plus de précisions.
De toute façon, vous serez toujours les bienvenus à Divergence FM, à Vendredi Théâtre, mais tenez-moi au courant, et comme ça qu'on puisse se déplacer. Je vous rappelle que le principe de l'émission de Vendredi Théâtre, c'est qu'on va voir les spectacles dont on parle, et qu'on ne reçoit pas les spectacles qu'on n'a pas vus. Donc il faut absolument qu'on soit prévenu un peu à l'avance pour planifier ça dans notre agenda. Alors, on va rappeler donc que c'est au théâtre La Vista. Donc, ce soir, vendredi, ça commence à 19h avec un concert-spectacle et une performance clownesque. Vous me dites si je me trompe. Samedi, c'est un film suivi d'une pièce de théâtre d'après les petits poèmes en prose de Charles Baudelaire. Et dimanche, ça commence à 17h30 avec un atelier autour de la valse, un atelier gratuit, qui sera suivi par un spectacle, un duo sur le tango contemporain. Et ça finit avec un spectacle « Il s'en allait tout plat », un spectacle de danse, théâtre et musique. Voilà, et c'est à 18h45. Et tous les soirs, il y a l'expo dans le hall du théâtre.
Voilà.
Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses ?
Juste hier, c'était une soirée un petit peu spéciale, on a travaillé sur le happening. Du coup, parce que ce qui s'est passé hier avec les lectures de poèmes ou avec le Bibendum, qui est le premier duo que vous avez vu de danse, qui était de la pure impro, où on a travaillé comme ça sur le happening, différemment de la performance traditionnellement, mêle le public. en fait. Et c'est pour ça que ce que j'expliquais sur le poème, qu'on a distribué des petites invitations à écrire des mots 15 jours auparavant, un peu partout dans le quartier, à des caissières, sur des tables de café ou à des gens qu'on rencontrait. Et l'impro que vous avez vu, ben, Karina a demandé les vestes aux spectateurs au fur et à mesure, et puis après a fait une impro avec ça, mais qu'elle n'avait pas du tout travaillé. Enfin, c'était, voilà, et ça, c'était particulier hier, où on avait travaillé comme ça. Et c'est un peu un endroit qu'on a envie de travailler dans Rhizome, dans le sens où chacune a ses productions et son univers nécessaire en tant qu'artiste qui nous construit dans ses compagnies à travailler ses spectacles à sa manière, mais que du coup, progressivement, on s'amuse beaucoup à travailler sur l'inattendu. En fait. Donc hier, ça s'est présenté comme ça. Je ne suis pas sûre que ça va se retrouver dans les trois soirs. Ce n'était pas prévu, mais ça nous a tellement plu hier que on ne sait pas si on va pas recommencer.
Moi, je vous ai découvert en bibendum, Karina.
Oui. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a envie. On a envie de revenir à ça. C'est à quelque chose qui n'est pas forcé, qui n'est ni formaté, ni trop recherché, qui est dans la relation au public et...
dans la spontanéité
et dans
aussi.
La spontanéité. Et finalement, c'est vraiment, c'est vivifiant et nécessaire, et ça nous manque, nous, comme spectatrices, ça nous manque, en fait.
Et il y a eu aussi un cadavre exquis.
Oui.
Donc, vous avez été voir les spectateurs avant l'entrée du spectacle, et vous leur avez demandé une phrase.
Une phrase.
Et à la fin, ça a donné un poème que vous lisez sur scène, et que vous pouvez envoyer après aux gens sur leur mail.
Oui, oui, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient donné leur mail, mais bon... Je leur ai proposé qu'ils nous donnent leur mail pour qu'on leur envoie le poème. Sinon, on le mettra sur le blog.
Voilà, on va le mettre sur le blog.
Ouais.
Alors, le blog, donc l'adresse du blog, si vous l'avez.
Alors, l'adresse du blog, c'est http://groupementrhizome, donc groupe tout attaché, groupement au singulier, rhizome, ça s'écrit R-H-I-Z-O-M-E, .blogspot.fr. Blogspot, ça s'écrit B-L-O-G-S-P-O-T.
Merci en tout cas de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau de Vendredi Théâtre. Mais on va se séparer avec quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, Ima Soumak. J'espère que le choix vous incidera avec Beau Mambo.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci.
Divergence FM. Get the sound, dick up out your mouth. Where did your time mine? So we know everything that you about. So try another one. Le quart d'heure radiophonique que vous venez d'entendre vous a été offert par Divergence FM 93.9.
We still a fight Babylon. Well, many miles away and them still not move yet. What goes up must come down, so them still afraid. It's all about faith and not intellect.
Divergence FM, le 93.9, et oui, les jingles de Divergence FM, ce sont toujours des créations. Divergence FM, donc l'émission Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de théâtre sur Divergence. Et le troisième plateau, nous allons parler de La Fontaine avec un spectacle qui s'appelle Plus ou moins quatre fables. C'est un spectacle qui se déroule à Pierre Tabar. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Daniel Mononino. Bonjour.
Bonjour.
Je n'ai pas écorché votre nom ?
Si.
Ah, alors.
Daniel
c'est ma spécialité. Mononino.
Ah, oui, tout simplement.
Une erreur de frappe en plus. Alors, un spectacle sur La Fontaine.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à adapter La Fontaine sur scène ?
Alors, j'ai réalisé un stage avec des personnes à Montfaillet-sur-Lèze il y a 2 ans. Un stage d'une semaine dans lequel je travaillais une anthologie de textes de La Fontaine. Et c'est un spectacle un peu qui cherche à leur rendre hommage et à essayer d'explorer ce qu'on a découvert avec ce stage et surtout pour voilà, rendre vraiment hommage à 2 personnes notamment qui en faisaient partie, à qui le spectacle est dédié en fait.
Alors les fables de La Fontaine, bon, c'est déjà, il y a 240 et quelques fables si je ne me trompe pas dans, dans les recueils, il y a 6 recueils de fables.
Même un peu plus, oui.
C'est plus que ça. Ouais. C'est des vieux souvenirs scolaires, hein, donc il faudra pardonner mes imprécisions. Et donc, comment est-ce que vous avez choisi les fables ? Parce qu'il y en a certaines qui sont très connues et d'autres beaucoup moins connues. Et on commence avec des fables beaucoup moins connues, et puis après on arrive à des fables plus connues.
Oui. J'ai choisi en fait plutôt justement les pas connues pour permettre aux spectateurs de découvrir des fables qu'ils ne connaissaient pas, pour chercher à explorer cet univers qui est vraiment singulier et dont on garde un souvenir trop proche de la corvée d'école, en fait. Donc, des fables nouvelles, inconnues, pour permettre de découvrir La Fontaine, et les fables connues à la fin, pour voir l'interprétation que j'en donne après avoir vu un autre La Fontaine, en fait.
Alors, il y a tout un jeu scénique que vous faites pour le spectacle avec les lettres de La Fontaine. Comment ça s'est passé, cette création ? Il y a tout un tas de petites trouvailles d'inventions à chaque fable.
Oui, alors c'est du théâtre d'objets, en fait. Donc, j'utilise des lettres blanches de 20 cm de hauteur, à peu près, pour jouer les fables, pour les interpréter. Et c'était le titre, en fait, de base du premier spectacle que j'ai créé autour de La Fontaine, qui s'appelait « Quatre fables de La Fontaine », qui était, en fait, une interprétation de 4 fables. Tout simplement, et j'avais utilisé ces lettres-là pour jouer. Et puis, le spectacle a beaucoup plu. J'en ai rajouté 6, j'en ai rajouté à 8, etc. etc.
On est à combien de fables aujourd'hui ?
Il y en a 13.
Il y en a 13, parce que je ne les ai pas comptées toutes, mais je me suis dit, il y en a largement plus de 4. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Et au niveau de la réception du public, j'ai vu, c'était la première, moi, à Tabar, je crois.
Mercredi soir.
Oui, c'était mercredi soir, donc c'était la première. Comment ça s'est passé ?
Alors, mercredi, vous étiez assez assez à l'écoute sans être très réactif. J'ai eu entre-temps, jeudi après-midi, un public extrêmement réactif, une classe, et c'était extrêmement plaisant parce que c'était un spectacle et aussi une invitation à rire, une invitation à découvrir, au plaisir de l'imagination. Donc un public réactif, c'est plus porteur. Mais vous étiez un très bon public aussi, mercredi.
C'est vrai que moi, je découvrais un petit peu votre univers. Donc moi, c'est vrai que j'étais attentif. J'essayais de reconnaître, dit tiens, celle-là, je la connais, celle-là, ça ne me dit rien, etc. Donc c'est vrai que moi, j'étais attentif. Et donc la classe que vous avez eue, c'était une classe de quel âge ?
C'était des secondes, je crois. Mmh. Voilà. Et je crois qu'il y avait aussi une classe de collège qui est venue.
Mais c'est vrai que moi, les souvenirs scolaires que j'en ai, on apprenait La Fontaine dès le primaire.
Oui,
dès le primaire. Moi, les premières fables que j'ai apprises, c'était dans le primaire. Ce qui m'a toujours semblé étonnant qu'on enseigne La Fontaine dans le primaire, puisque si on regarde bien, les morales, elles sont quand même assez, assez cyniques quand même.
Ah oui, oui. Mais c'est justement là où c'est intéressant, c'est qu'à l'école, on ne nous apprend pas forcément les pires. Mmh. Et quand on veut s'y intéresser, on se rend compte qu'en fait, celle qui était juste à côté, que celle qu'on a étudié, en fait, elle est vraiment, elle porte un sens qui est très 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 fort en fait. Et c'est pour ça que c'est pas vraiment pour les enfants La Fontaine. Je sais pas qui c'est qui a choisi de mettre La Fontaine à l'école. C'était pas une bonne idée.
Oh si, c'est une bonne idée puisque moi j'ai encore, comme j'en ai appris quand même pas mal par cœur, il y a quand même des bribes qui me reviennent encore aujourd'hui, donc qu'on redécouvre après sous un autre aspect. On va dire aussi que La Fontaine, avant La Fontaine s'est inspirée des fables d'Ésope. Mais avant La Fontaine, les fables, c'était plutôt un sous-genre. C'est lui qui a donné ses lettres de noblesse aux fables.
Oui, oui, exactement, oui.
Et votre parcours à vous ?
Oui.
Vous êtes jeune comédien. C'est votre premier spectacle ? C'est votre deuxième spectacle ?
C'est très compliqué parce qu'en réalité, je suis co-directeur d'un ensemble artistique, c'est-à-dire un regroupement d'artistes fédérés sous un nom, Esprit Libre, au pluriel. Et nous créons en fait énormément de spectacles. En général, chaque année, nous créons 5 à 6 spectacles. Et je suis aussi directeur d'un festival de théâtre à Montfaillet-sur-Lèze. Et donc, ces deux choses-là font qu'on crée beaucoup de spectacles, des petites formes, des grandes formes. Et plus ou moins 4 fables, c'était d'abord une petite forme qui est ensuite devenue une plus grande, puis une très grande. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire parce qu'entre-temps, j'en ai créé d'autres. Entre-temps, j'ai fait des performances aussi à Paris. Donc, on va dire c'est dans les 5-6 premiers spectacles que je crée.
C'est la première fois que je vous voyais. On peut avoir un petit extrait pour voir un petit peu ce que ça donne, si c'est possible.
Bien sûr. Je vais vous dire Le renard et le buste.
Ah, tout à fait.
Les grands, pour la plupart, sont masques de théâtre. Leur apparence impose aux vulgaires idolâtres. L'âne n'en sait juger que par ce qu'il en voit. Le renard, au contraire, à fond les examine, les tourne en tous sens, et quand il s'aperçoit que leur fait n'est que bonne mine, il leur applique un mot qu'un buste de héros lui fit dire fort à propos. C'était un buste creux, et plus grand que nature. Le renard, en louant l'effort de la sculpture, « Belle tête, dit-il, mais de cervelle, point. » Combien de grands seigneurs sont bustes en ce point ?
Merci beaucoup pour cet extrait de plus ou moins 4 fables. Je rappelle que c'est au théâtre Pierre Tabar. Ce soir, c'est à 21h. Demain, c'est à 21h. Et dimanche, c'est à 17h. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de Vendredi Théâtre. Et on va se quitter avec un extrait de la bande originale du film Tous les matins du monde, avec un marin marais qui s'appelle Le Badinage, et c'est avec Jordi Saval à la basse de viol.
Merci
beaucoup. Très bonne semaine théâtrale à tout le monde, et puis à la semaine prochaine. Au revoir.